Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h42 sur France Culture. Si je devais résumer en deux mots les conclusions du dernier Conseil européen de la migration au terrorisme de l'Union économique et monétaire au Royaume-Uni, en passant par les relations extérieures, je dirais qu'elles sont le parfait reflet d'une Europe en polycrise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Claude Juncker. Bonjour Sylvie Goulard.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne. Une Europe en polycrise, c'est une situation qui vous semble être aujourd'hui encore largement le cas?
Oui, et cela fait un moment que ça dure, puisque nous n'avons pas tout à fait réglé les crises qui ont commencé il y a plusieurs années.
Donc, quelles sont les crises en question?
D'abord, je crois que la principale, elle va bien au-delà de l'Europe, c'est l'évolution du monde, c'est une révolution technologique qui change énormément de choses pour nos sociétés. On a vu l'effet que ça a pu avoir aux États-Unis, mais après il y a aussi des causes spécifiquement européennes, par exemple effectivement le manque de moyens pour régler une crise migratoire tout à fait, enfin humainement tragique. D'autres aspects comme la compétitivité, on voit bien en Italie par exemple que les taux de chômage de jeunes ont sûrement pesé dans le scrutin. Donc il y a à la fois des aspects économiques, des aspects de sécurité intérieure. Il y a aussi à nos portes un nombre assez considérable maintenant de zones qui sont troublées, de la Russie à l'Afrique du Nord en passant par le Moyen-Orient. Donc effectivement, notre génération est confrontée à une situation qui est inédite.
Vous avez annoncé votre candidature à la présidence de l'Europe. Est-ce bien raisonnable, Sylvie Goulard?
Vous savez, la présidence de l'Europe, il ne faudrait pas que vos auditeurs aient un choc un lundi matin. Je suis députée européenne et j'ai souhaité qu'à l'occasion de la désignation du président du Parlement, et seulement du Parlement, il puisse y avoir un débat, justement en raison de la gravité des crises qui nous frappent. L'une d'entre elles, que j'ai oublié de citer, étant d'ailleurs aussi le fait d'avoir peut-être, selon des modalités encore inconnues, perdu un État membre.
Justement, on peut en parler de la perte de cet État membre. Le Brexit a été présenté avant l'été comme étant une véritable catastrophe, un apocalypse. Et aujourd'hui, on ne le voit pas venir.
C'est au gouvernement britannique et à ceux qui ont plaidé pour le Brexit au Royaume-Uni qu'il faudrait demander pourquoi on en est là. Encore une fois, moi-même, j'ai écrit un bouquin avant le référendum en disant que c'était d'abord une option qui risquait d'advenir et d'autre part à laquelle on devrait se préparer, mais ça peu importe. Ce qui se passe depuis le référendum britannique, c'est toute la différence qu'il y a entre des discours de campagne, où il est très facile de faire miroiter aux gens tous les avantages d'un changement qui n'est encore que sur le papier, et d'un autre côté, la réalité. Et la réalité, c'est que ce sont des négociations extrêmement difficiles, qu'il est à peu près certain, je dis ça de manière objective, qu'elles ne sont pas dans l'intérêt national britannique, ou en tout cas pas aussi clairement que certains ont pu le dire. Par exemple, la perte du rôle de la City de Londres, de la place financière qui représente à peu près 10% de la richesse nationale, c'est pas un tout petit morceau. En tout cas, pour mettre en œuvre le mandat reçu du peuple britannique, le gouvernement doit faire des choix qui sont des choix très difficiles. Et c'est pour ça qu'il hésite.
Bon, mais là-dessus, ça n'est pas encore fait. La City n'a pas encore complètement perdu de son importance.
Non, bien parce que le Royaume-Uni est toujours dans l'Union européenne. Si vous voulez, le paradoxe. Les partisans du Brexit à la fois n'ont donné aucun mode d'emploi pour mettre en œuvre leur vision grandiose et de l'autre disent « mais regardez, c'est pas grave, la situation est sous contrôle ». Mais je répète encore une fois, la situation n'est sous contrôle que parce que le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne et qu'en quelque sorte la facture n'a pas été soumise au peuple britannique.
Alors quels sont les scénarios les plus plausibles selon vous ?
Personnellement, je m'en tiens à ce que Mme May, le Premier ministre britannique, nous a indiqué, et c'est à ce stade assez peu substantiel. Elle a indiqué qu'elle souhaitait déclencher la procédure prévue par les traités, qui est la procédure dite de l'article 50, qui prévoit le droit pour un État de sortir de l'Union européenne. Elle a prévu de le faire d'ici le mois de mars, nous a-t-elle dit, probablement parce que cet article prévoit un délai de 2 ans et qu'au bout de 2 ans, on sera au printemps 2019 où il y a les nouvelles élections européennes et que Mme May n'a peut-être pas envie qu'il y ait de nouvelles élections européennes avec son pays dans l'Union. Ça serait quand même une victoire grinçante des Brexiteurs. Donc nous en sommes là sur les modalités, sur ce que le Royaume-Uni veut vraiment, nous n'en savons rien. Elle a, je dirais en quelque sorte, posé des jalons. Elle a dit qu'elle ne voulait pas renoncer à contrôler la libre circulation des personnes, c'est-à-dire que l'entrée des étrangers sur le territoire britannique. Elle a annoncé qu'elle ne voulait plus que les règles soient faites ailleurs qu'à Londres. Elle a annoncé qu'elle rejetait la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne. Tous ces éléments mis bout à bout laissent penser que l'option sera une option plutôt dure et que donc le Royaume-Uni sortira complètement de l'Union européenne et du marché intérieur et qu'il se trouvera dans la situation d'un pays tiers qui devra renégocier avec l'Union européenne des accords commerciaux comme un pays extérieur, le Canada, la Chine, les États-Unis. Mais tout ceci n'est vraiment pas facile à mettre en œuvre.
Comme la Chine, les États-Unis, avec donc la question de la main-d'œuvre, puisqu'il y a beaucoup de Britanniques qui travaillent en Europe, il y a énormément de Français qui travaillent en Grande-Bretagne. Du coup, comment peut-on imaginer les choses selon vous ?
Il faudrait le demander à ceux qui ont nié les interdépendances. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes économiquement, humainement, culturellement, extrêmement interdépendants. Des solutions pourront peut-être être trouvées, mais elles seront moins favorables. Je pense par exemple à tous les Britanniques qui ont pris leur retraite sur le continent, qui bénéficiaient de l'accès à la sécurité sociale. Ils ne le pourront plus. De même que les étrangers travaillant au Royaume-Uni devront être sur une autre base. Ce qui probablement d'ailleurs, et c'est assez ironique, devra inciter le Royaume-Uni à se doter d'une administration beaucoup plus poussée. Donc on nous a vendu une diminution de la bureaucratie, mais la bureaucratie locale pour gérer ne serait-ce que les questions, comme vous l'indiquez, de présence d'étrangers sur le territoire national britannique, cette administration-là devra être renforcée.
Les conséquences cette fois-ci du vote italien. Le vote italien, donc, il est intervenu ce week-end. Il porte sur une réforme de la Constitution italienne. Il a conduit à la démission, comme on l'a entendu, du président du Conseil Matteo Renzi, peut-être à de nouvelles élections. Si ces nouvelles élections ont lieu, si elles donnent la victoire à des partis anti-européens, comme par exemple le mouvement 5 étoiles, peut-on imaginer un Brexit italien, on a parlé de Renxit suite à la démission de Renzi. Est-ce qu'il peut y avoir éventuellement là aussi un risque que l'Italie se détache de l'Europe, selon vous, Sylvie Goulard ?
Premièrement, je crois qu'il faut raison garder. On est le lendemain du référendum. Monsieur Renzi a annoncé sa démission dans la nuit. Il n'est pas du tout exclu que le président de la République propose la constitution d'un nouveau gouvernement. Je signale aux auditeurs d'ailleurs que Monsieur Renzi, qu'on nous présente comme le rempart contre les populistes, était arrivé au pouvoir par un coup de force et n'a eu de cesse lui-même de tenir des propos extrêmement anti-européens. Donc, gardons-nous un peu des présentations en noir et blanc. On est probablement dans du gris. Et il faut qu'on attende un petit peu. Deuxièmement, l'Italie n'est pas dans la situation du Royaume-Uni. L'Italie est membre de la zone euro. Comme nous venons de le rappeler, sortir de l'Union européenne est déjà quelque chose de probablement beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. La sortie de la zone euro n'est même pas prévue par les traités, contrairement à la sortie de l'Union européenne. Et c'est une hypothèse qui aurait un tel impact sur la santé et l'économie du pays et de l'ensemble de l'Europe que je pense que les Italiens y réfléchiront à deux fois. Il faut entendre, bien entendu, ce qui a été exprimé par le peuple italien. Mais personnellement, j'ai suivi d'assez près le débat, y compris dans les médias italiens. Je crois qu'il y a eu un facteur personnel. Il y a eu, comme souvent dans les référendums, le rejet de la personne en place, le rejet de sa politique, des jeux politiciens internes. Quand vous voyez que quelqu'un comme Mario Monti était dans le camp du non, je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire que c'était oui ou non à l'Europe. Il y a eu des phénomènes beaucoup plus complexes. Après, comme vous le dites, ça peut également entraîner à moyen terme des changements au pouvoir qui auraient des conséquences très graves effectivement pour l'Union européenne.
Sortir de l'euro, vous le dites, ça n'est pas prévu par les traités. Si néanmoins les peuples le décidaient contre ces traités, qu'est-ce qui pourrait survenir, Sylvie Goulard ?
Alors, d'abord, je tiens à rappeler qu'aucun pays n'est membre de la zone euro, aucun, sans que des procédures nationales aient été respectées, soit un référendum en France pour Maastricht, soit dans les autres pays un vote du Parlement. Donc les peuples n'ont pas été forcés d'entrer dans la zone euro, ce sont leurs représentants légitimes qui, à un moment donné, l'ont accepté. Deuxièmement, évidemment, tout peut être défait, mais cela peut avoir un coût considérable. Et c'est là que je crois qu'il faut s'adresser aux citoyens en adultes. Encore une fois, il n'y a pas de tabou, tout peut être imaginé. Simplement, il ne faut pas penser qu'on va garder tous les avantages d'un système d'union tout en le détruisant. Ce que les Britanniques en ce moment sont en train d'expérimenter.
Mais alors, imaginons ce que vous considérez comme étant le pire, Sylvie Goulard. Imaginez par exemple que les Italiens décident de sortir de la zone euro. Quel serait ce coût? Pourquoi serait-il si coûteux, ce coût?
D'abord, c'est vous qui l'imaginez. Pour moi, ce n'est pas un scénario qui, pour le moment, est sur la table. Nous avons une monnaie commune. Et l'Italie, par exemple, est un pays qui a une dette qui représente à peu près 130% de son PIB. L'Italie est endettée en euros. Mmh. Admettons que l'Italie sorte du système, les étrangers qui détiennent cette dette voudront être remboursés. La monnaie nouvelle de l'Italie sera forcément une monnaie affaiblie par rapport à l'euro. Donc le coût du remboursement de la dette va coûter beaucoup plus cher. Il y a beaucoup d'Italiens qui détiennent de la dette italienne. Si jamais ils prennent cette décision, ils seront les premiers, en cas de défaut sur la dette italienne. C'est une chose qui est, enfin, qui est pas amusante, mais qui me frappe. On entend beaucoup de gens dire qu'il faudrait faire un défaut sur la dette italienne. Oui, ça veut dire que dans ce cas-là, une grande partie des ménages italiens, une grande partie des banques italiennes, et aussi des étrangers, mais dans une moindre proportion, seraient amenés à perdre leurs créances. C'est un peu l'histoire des emprunts russes au début du XXe siècle en France. Donc encore une fois, arrêtons de faire miroiter des choses qui finiraient par se retourner peut-être contre ceux-là même qui l'ont lancé.
Néanmoins, lorsqu'on observe les causes du vote italien, il y en a trois. La première, vous l'avez donnée, c'est peut-être la décision tout simplement d'en finir avec ce gouvernement-là, donc une équation politique interne. Ensuite, il y a deux questions qui ont été, semble-t-il, au cœur de ce vote, même si elles n'étaient pas explicitement présentes dans le choix constitutionnel. C'était tout d'abord la question donc des frontières et ensuite la question de la mondialisation. Et on voit qu'en fait, ces deux questions sont devenues centrales en Europe et ailleurs, et on voit que l'Europe, en tout cas, ne parvient pas à apaiser les craintes à cet égard, Sylvie Goulard.
Non, je suppose que par frontière, ce que vous voulez dire, c'est l'arrivée des migrants en Italie et la manière dont ils sont, le cas échéant, répartis ou non dans l'Union européenne. C'est bien ça que vous aviez en tête.
Notamment, mais pas uniquement. Le fait que, effectivement, il y ait, semble-t-il, un désir de frontière, l'idée que Schengen n'est pas une manière donc d'avoir des frontières qui soient des frontières élargies. Et on a, dans un certain nombre de votes, pas seulement européens, on pourrait également considérer que le vote Trump a une dimension qui relève d'une restauration des frontières. Et là, il n'est pas question de migrants.
Non,
enfin, de migrants européens.
Non, je vois bien ce que vous voulez dire. Non, je voulais être sûr d'avoir compris. Vous savez, j'ai travaillé avec Romano Prodi, qui est un ancien Premier ministre italien, quand il était président de la Commission au début des années 2000. À l'époque, M. Prodi avait soulevé cette question du contrôle aux frontières extérieures. Il faut bien voir une chose, c'est que l'Union européenne travaille par délégation de compétences. L'Union européenne ne peut pas s'emparer, et ça n'est pas souhaitable d'ailleurs, on le lui reproche, mais ce n'est pas vrai. L'Union européenne ne peut pas décider, contre l'avis des États membres, de se doter, par exemple, d'un corps de garde-frontière. Ce corps de garde-frontière, on commence à peine à le mettre en place, plus d'une quinzaine d'années après que le problème avait été identifié. C'est typiquement la raison de la frustration des personnes. Mais là, les responsabilités, elles sont très largement au niveau des États. Vous savez, le pape était allé à Lampedusa déjà en 2013, bien avant la décision de la chancelière Merkel de 2015 d'ouvrir les frontières, etc. Le problème se posait sur le flanc sud de l'Europe, de savoir comment on gère un afflux de réfugiés liés au conflit syrien ou au conflit en Afghanistan, et d'un autre côté aussi de migrants économiques. Donc là, vous avez raison, il y a quelque chose à faire, mais encore une fois, plaçons la responsabilité au bon niveau. La Commission européenne, le Parlement européen ont essayé d'ores et déjà d'attirer l'attention des chefs d'État et de gouvernement sur le fait qu'il fallait qu'ils décident ensemble. Il faut qu'on protège les frontières extérieures et il faut également qu'on définisse des clés de répartition parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Soit vous laissez les gens là où ils arrivent, donc en l'occurrence en ce moment en Grèce et en Italie, un jour ça sera peut-être en Espagne ou je ne sais où, soit vous considérer que c'est un effort à faire en commun. Donc cette question-là a pesé incontestablement dans le vote italien. Mais là, je dis par exemple, qu'a fait la France ces dernières années? On avait un gouvernement de gauche en France, un gouvernement de gauche en Italie, une certaine solidarité, mais les autorités françaises ont totalement refusé que la France participe à cet effort.
Et sur cette sensation de perte de souveraineté qui est aussi corrélée donc à ce désir de frontières, la sensation que les peuples n'ont plus la maîtrise en quelque sorte de leur avenir, là aussi, que peut faire l'Europe, Sylvie Goulard?
L'Europe nous redonne de la souveraineté. L'Europe nous redonne de la
souveraineté. C'est paradoxal ce que vous
dites. Non, c'est pas paradoxal, elle a été créée pour ça, elle n'est plus comprise. Je prends un exemple très concret. Lorsque nous affrontons des grandes puissances émergentes, ou même les États-Unis, dans des discussions commerciales ou dans la défense de nos intérêts en matière de protection des données personnelles face aux géants d'Internet, etc. Chacun de nos pays, pris isolément, n'est pas capable d'obtenir un certain nombre de choses de la Chine ou des États-Unis. C'est si nous mettons la souveraineté en commun et si nous faisons bloc, si nous faisons une équipe d'Europe, que nous arrivons à être entendus des autres. Et dans ces cas-là, nous sommes entendus parce que ce que représente l'Europe unie en termes de marché, en termes de puissance commerciale et aussi en tant que poids politique est tout à fait significatif. Je le dis vraiment, non pas de manière provocatrice, mais parce que c'est la réalité. Ce que les gens contestent, c'est une évolution du monde. Cette évolution du monde, personne ne l'arrêtera. Et ça n'est pas le rétablissement de frontières à un échelon qui, par rapport à cette mondialisation, est relativement modeste, qui nous redonnera de la souveraineté. C'est le changement d'échelle, c'est le fait de nous organiser ensemble, d'autant plus que sur bien des sujets, nous avons les mêmes valeurs. Il n'y a pas de difficultés majeures, si ce n'est les résistances d'appareils, les jeux de pouvoir dans les États. Mais sur le fond, je crois qu'entre un citoyen italien et un citoyen français face à des questions de migration, d'abolition de la peine de mort, d'égalité homme-femme, de protection, il y a des nuances, mais il faut arrêter de regarder l'Europe, enfin de se regarder le nombril, comparer la situation des pays d'Europe par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, et vous verrez que les affinités sont plus grandes qu'on ne le dit.
Bah, ces nuances-là, elles sont effectivement importantes entre l'Arabie Saoudite et les valeurs en vigueur à l'intérieur de l'Europe, vous avez raison, mais si on prend des pays proches, comme par exemple la Pologne, la Hongrie, on voit malgré tout que sur un certain nombre de questions, l'IVG, la peine de mort peut-être, des questions donc qui relèvent de la définition même de la citoyenneté, on est sur des valeurs qui, elle, commence à devenir singulièrement différente. On voit aussi que l'Europe ne parvient pas, en quelque sorte, à ramener la Pologne ou la Hongrie dans un espace qui soit un espace de valeurs communes.
Là, vous avez raison sur ces deux pays. Mais d'abord, c'est 2 sur 28. Et d'autre part, c'est dû à la présence à la tête de ces pays de gouvernements qui, en l'occurrence, en partie, s'affranchissent des valeurs européennes. Ça n'est pas que les valeurs ne sont pas partagées. D'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est passé sur l'avortement en Pologne, vous verrez que la société civile polonaise a réagi de manière très vive sur cette question et que les femmes polonaises ont fait faire demi-tour au gouvernement en s'appuyant, et c'est ça qui est intéressant, en s'appuyant sur les valeurs communes. Vous savez, la démocratie ou les valeurs, ça n'est jamais un État stable. C'est quelque chose qu'il faut toujours défendre. En ce moment, on a des problèmes dans ces pays-là, on peut en avoir ailleurs. Je dirais que quand on voit comment le Conseil de l'Europe, qui est une autre institution, mais analyse l'État dans les prisons françaises, nous devrions aussi être modestes, il y a toujours des améliorations à apporter. Et là, vous mettez le doigt sur deux pays qui sont en ce moment, effectivement, dans une situation très particulière et délicate et où l'Union européenne devrait faire plus.
On va voir justement qu'est-ce qu'il est possible de faire contre la montée des populistes. Si vous pensez, Sylvie Goulard, qu'il faut agir contre la montée de ces populismes. On va notamment évoquer la question autrichienne en seconde partie de cet entretien. Aux environs de 8h20, je rappelle le titre de votre ouvrage, Goodbye Europe, publié chez Flammarion. Il est 8h sur France Culture.